Donc, nous étions aux anges. Donc, les anges, si vous avez compris comment fonctionne un esprit, il se comprend, il s'aime. C'est l'intelligence et la volonté. Donc, Dieu a créé 9 sortes d'anges, dit-on, ce qu'on appelle les 9 cœurs des anges. Et parmi les anges à qui il a donné les plus grandes connaissances dès leur existence, dès leur création, vous avez les chérubins, les séraphins et les trônes peut-être. Oui. Ensuite, vous avez les puissances, les vertus, alors je ne sais plus si on dit vertus célestes ou les cieux. Vous avez des principautés, ils ont des noms un peu particuliers. Hein. Et vous avez les archanges et les anges. Vous voyez, donc ça fait 9 en tout. Et on dit que les trônes, ce qu'on appelle les anges qu'ils appellent des trônes, président au mouvement des astres. Il n'y a pas seulement le magnétisme de la loi de la gravité, mais vous avez des anges qui accompagnent la vie du cosmos. En ce qui concerne les chérubins et les séraphins, ce sont des anges qui se concentrent sur Dieu, qui veulent le scruter le plus possible. Et Dieu, lui, a deux manières d'être connu, de manière naturelle et de manière surnaturelle. Les anges, quand ils ont été créés, connaissaient de manière naturelle Dieu, avec leur intelligence angélique, qui est extrêmement puissante. Quand vous aviez les Beatles ou les Rolling Stones qui demandent à des démons des mélodies, eh bien, vous avez les démons, si vous voulez, ou les anges. Hein, ça aurait été mieux qu'ils demandent à des anges. Mais à l'époque, c'était très à la mode de faire un pacte avec le diable, n'est-ce pas? Et donc, surtout les Rolling Stones. Et donc, ils demandent aux anges, aux esprits, en transmédiumique, en fait, en spiritisme, hein, tout simplement, hein, des mélodies. Et donc, c'est une des causes hein, pour lesquelles les Beatles ont des mélodies entêtantes, hein, extraordinaires. Mais c'est pas eux qui les ont inventées. Alors, on ne saura jamais lesquelles ils ont eu en transmédiumique ou pas. Mais c'est assez impressionnant parce que bon, les anges peuvent vous faire des musiques, ils peuvent faire vibrer l'air, ils peuvent élaborer n'importe quel son en faisant vibrer l'air. Parce que le son, vous savez que c'est une longueur d'onde. Okay. Donc, ils ont la connaissance de toutes les longueurs d'onde possibles imaginables. Comment ? Oui, mais on ne peut pas faire vibrer l'air comme les anges peuvent le faire. Ils peuvent vous faire le requiem de Mozart en un seul instrument, entre guillemets, c'est eux. Ils peuvent vous reproduire un concert symphonique en faisant vibrer de l'air. Ils peuvent contrefaire la voix de votre grand-mère, de votre père, de votre mère morte. La voix exacte. Vous dites, mais c'est la voix de mon père, c'est pas possible. Et oui, mais ils peuvent contrefaire. Comme, si vous voulez, des ingénieurs d'Hollywood pourront, ou des informaticiens actuellement, peuvent vous faire des images extraordinaires. Mais c'est plus lourd pour l'être humain. Un démon peut vous faire une apparence humaine parfaite. Ça sera pas le musée Grévin, hein. Ça sera avec la transpiration, tout ça. Est-ce qu'ils vont faire les organes à l'intérieur? Non, probablement pas. Quand les anges apparaissent ou quand les démons apparaissent, ils font une apparence parfaite. Ils font, si vous voulez, ils concentrent de la matière, ils prennent de l'eau, et ça vous donne le grain de peau, ça vous donne les cheveux, ça c'est parfait, parfait. Moi, ma plus grande curiosité, ça serait de savoir s'ils font les choses à l'intérieur. Je pense pas. Je pense que c'est creux. Ils vont pas s'amuser à faire tout un système de tuyauterie. D'autant plus que les esprits ne peuvent pas provoquer le vivant. Si vous avez un mannequin parfait ou un, il sera pas vivant. Ils peuvent même pas donner la vie à une bactérie. À une cellule. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ils ont une puissance d'intelligence, ils ont une puissance de maîtrise de la matière mécanique. Mais ils n'arrivent pas à faire du vivant, c'est-à-dire à faire l'influx de mouvements autonomes. Seul Dieu crée le vivant. Actuellement, on essaye de faire la soupe originelle. On met des acides aminés et on triche, hein, parce que les acides aminés, c'est déjà pas bien, bien compliqué. Hein. Mais on balance des acides aminés, on dit, bon, bah, avec le temps, il y a eu des acides aminés. Vu l'enchaînement des acides aminés, hein, il faut un bon gars très très intelligent, genre Dieu, pour faire un assemblage d'acides aminés. Et on les met dans des conditions de chaleur, de machin, de trucs, pour essayer que ça bouge. Et bien, figurez-vous que ça fait quand même des années et des années, des décennies qu'on essaye. Mais du vivant, il n'en existe que quand ils n'ont pas... Ils ont triché, quoi, ils n'ont pas totalement aseptisé le laboratoire, et que vous avez un microbe qui s'est introduit. Mais quand vous avez quelque chose de complètement aseptisé, où il n'y a aucun vivant... Aucune bactérie, rien. Et qu'ils essayent. Allez, ça va vivre, quoi. Frankenstein, dans le film, avec un éclair, le bonhomme, il se réveille. Ah, oh, vache. Bon, il faut vraiment que ça soit bien frais, hein, les morceaux, hein, parce que... Pour que l'électricité fasse l'assemblage du corps humain... Eh bien, voilà. Les anges ne peuvent pas créer le vivant. Mais par contre, donc, ils se connaissent, ils connaissent Dieu comme nous nous le connaissons, mais beaucoup plus finement que nous. Et ils ont été créés en état d'amour de Dieu, avec une aide spéciale, une aide spéciale qu'on appelle un don, en latin gratia, en français grâce. Ils étaient aidés pour aimer Dieu, non seulement par leur nature, mais par une aide surnaturelle. Mais ils ne voyaient pas Dieu, ils n'avaient pas une relation à Dieu plus directe. Et ils étaient déjà très heureux, hein. Comme nous, on peut être très heureux lorsqu'on a bonne conscience et qu'on aime, ou qu'on est, voilà. Et ils ont été créés des milliards de milliards. Le premier des anges, quasiment, le plus intelligent et celui qui même enseignait d'autres anges sur ce qu'il connaissait de Dieu, on l'appelait le porteur de lumière. Ferré, ça veut dire porter en latin. Et lux, ça veut dire la lumière. Lucifer, c'est le porteur de lumière. On le représente avec une étoile au front ou une flamme au front. Ou une torche, au fond. Vous avez les kabbalistes qui ont représenté Lucifer sous la forme d'une femme, la statue de la liberté. C'est pas très politiquement correct ce que je vous dis, mais c'est comme ça. La statue de la liberté, c'est Lucifer. Et la tour Eiffel a été faite par des kabbalistes. C'est la tour de Babel, enfin terminée. Bon, eux sont kabbalistes, hein. Nous on voit un bel ouvrage, une belle statue, et puis voilà, pas de problème. Place de la Bastille, vous avez Lucifer représenté en statue dorée. Donc vous avez un homme avec des ailes, donc c'est un ange, sexué, d'habitude on ne met pas un sexe aux anges. Il a les chaînes brisées à sa main gauche, une torche à sa main droite, et l'étoile du matin, parce que quand Dieu a créé les anges, c'était au matin de la création. Et donc, c'est aussi un petit nom de Lucifer, c'est l'étoile du matin. Ce nom a été transféré à la Vierge Marie, pour sa plus grande honte. On appelle la connaissance matutinale la connaissance des anges. Avant la création de la matière, ils ont été créés. Et quand un ange se contemple, c'est extraordinaire, il connaît son intelligence. Et il voit les intelligences des autres anges. Et c'est splendide. D'ailleurs, nous, en tant qu'esprit inférieur, on est du même type, hein, sauf qu'on est créé à chaque conception pour être unis aux petites cellules qui se multiplient. Clac, 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 clac. 2, 4, 8, top. Et bien, Notre esprit est fait pour être uni à un corps. Donc on a toutes les connaissances qu'on peut acquérir, c'est par, à travers notre corps, par rapport à la, au don fondamental qu'on a dans notre âme. Faire le bien, éviter le mal. Et ensuite, on a des instincts d'animaux. Les animaux n'aiment pas ce qui est pourri, totalement pourri. Et il y a des charognards, vous me direz. Oui, mais quand la bête est en totale décomposition, ils ne mangent pas quand même, hein. Et quand c'est amer au goût, vous voyez, par exemple, ça, tout ça c'est des instincts animaux. Le feu. Mais faire le bien, éviter le mal, ça c'est dans notre âme, c'est pas dans notre instinct de corps animal. Donc les anges, eux, sont extraordinaires. Si vous, vous voyez un ange un jour, c'est que si Dieu vous donne de voir un ange, ou si l'ange se manifeste, ils sont écrasants. Leur puissance spirituelle et intellectuelle est écrasante pour nous. Les trois petits enfants de Fatima ont vu l'ange, un ange tutélaire, pas leur ange personnel. Dieu donne à mission à un ange de veiller sur un être humain, ce qu'on appelle l'ange gardien. Un ange tutélaire, c'est par exemple un ange pour tout le Portugal, un ange pour toute la Chine. Il doit être costaud le bonhomme, surtout avec les païens qui sont là-bas. Mais l'ange du Portugal, il apparaît à trois petits Portugais, donc il voit une sorte de jeune homme d'une quinzaine d'années, translucide, qui leur apparaît plusieurs fois, et à un moment donné il leur dit « Je suis l'ange du Portugal ». Waouh ! Quand vous avez dans la Bible « Je suis l'ange de la Perse », où je suis l'ange du peuple juif, hein, c'est Saint Michel qui est l'ange du peuple juif. Vous vous dites, oh, c'est des histoires pour enfants, quoi, ou, voilà, c'est de la Bible. Et si vous voulez, étant donné que le miracle de Fatima qui a eu lieu le 13 octobre 17, c'est la lumière du soleil, pas le soleil lui-même, je ne pense pas que le bon Dieu a fait déplacer le soleil, et tout l'orbe solaire sur 15 km à la ronde qui s'est déplacé, comme ça, qui a fait des ronds dans le ciel, devant 50 000 à 70 000 personnes qui ont vu tous la même chose dans les hallucinations collectives. Les gens ne voient pas tous la même chose. Ils ont tous vu la même chose. Donc c'était extérieur à eux. Et ce phénomène météorologique n'a jamais eu lieu avant le 13 octobre 1917 et n'a jamais eu plus lieu après le 13 octobre 1917. C'est Dieu qui s'est amusé ce jour-là. La Vierge Marie a dit, il y aura un grand miracle le 13 octobre. Eh bien, voyez-vous, eux avaient vu l'ange du Portugal. Et c'est impressionnant, un ange. Et si un jour un vrai ange vous apparaît, vous serez bluffé, normalement. Vous voyez, c'est d'une puissance spirituelle. Et donc, Lucifer, lui, est un des anges les plus intelligents et le plus de connaissances. Et là, Dieu crée la matière. Donc, il crée de la matière. La matière, c'est une sorte d'électricité solide, diront certains. Sauf que l'électricité au sens propre, c'est les électrons qui parcourent, les protons, les neutrons, les quarks maintenant, depuis quelques décennies. Cette matière qui est en extension, cette matière qui est en fusion, quand Dieu crée la matière, il crée la matière lumineuse, en fusion. Dans le récit de la Genèse, qui est très simpliste, très simple, c'est la tradition adamique, c'est la matière. Voilà, vous avez une quantité de matière qui se répand dans le cosmos. Et cette matière est en ébullition et se refroidit. Des étoiles qui explosent, des planètes. Dieu a pu créer de la vie ailleurs. On s'en fout comme d'une guigne. Les exoplanètes, c'est très bien. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que sur la planète Terre, il a créé de la vie. Et c'est pas seulement parce qu'il y avait une atmosphère, il y avait ça, il y avait une bonne température, le soleil était pas trop loin. C'est parce que Dieu a fait les conditions de la vie. Mais la vie est une œuvre d'intelligence, c'est pas une œuvre de milliards d'années et de hasard. C'est pas par hasard que les cellules ont des cytoplasmes et des mitochondries. C'est pas par hasard qu'on a les yeux en face des trous. Ah mais si, par sélection naturelle, tous ceux qui avaient les yeux dans les joues ne pouvaient pas voir. C'était l'évolution, hein, vous comprenez. Les poissons qui crevaient sur le bord de la mer parce qu'ils avaient des moitiés branchies, moitié poumons, non, ça n'a pas existé. Vous voyez, celui qui a conçu les branchies, celui qui a conçu les poumons, c'est le maître de l'ADN. Celui qui a conçu les araignées, celui qui a conçu les mouches, celui qui a conçu les paons, celui qui a conçu les tyrannosaures, qui sont des monstres absolument incroyables, une mâchoire à vous déchirer un autre dinosaure en rien de temps. Bon, ils n'étaient pas là pour manger des lapins, hein, les tyrannosaures. Mais toute cette vie absolument incroyable, voyez-vous, cette diversité, ces fleurs, ces coléoptères, les papillons. Mais les hommes n'arrivent pas vraiment à croiser des papillons. Toutes les espèces de papillons sont directement de la fantaisie divine. Direct. Mais non, c'est le hasard. C'est le hasard qui fait les papillons. Vous avez vu ce que c'est qu'un papillon ? Ce qui va devenir le papillon, la chenille et le papillon, c'est absolument invraisemblable. Les ailes, vous avez des papillons qui ont la tête d'un cobra, les ailes déployées, pour pas que les oiseaux les attaquent, ou que certains animaux les attaquent. Vous avez des papillons qui ont des ailes en forme de feuilles. Et quand ils sont attaqués, boum, ils tombent par terre et ils font feuille. Vous voyez, il y a un atelier pour les papillons le soir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, moi, je conçois, vous avez Mr. Q pour les papillons. Et vous avez des papillons, qui ont, si vous voulez, des capacités. Les éphémères sont là pour nourrir, vivent 24 heures. Mais il y a une diversité chez les papillons, mais qui est hallucinante. Si vous voulez un jour connaître Dieu, mais étudiez les papillons, étudiez les coléoptères, étudiez les mantes religieuses. Vous avez des mantes religieuses qui sont pas vertes, qui sont marrons. Vous voyez ? Et quand elles sont en danger, elles s'arrêtent et c'est une brindille. Elles l'ont fait exprès, c'est Madame Nature, Monsieur Hasard, Madame la Planète, la Pachamama, non? C'est la déesse Terre, hein. Vous voyez? C'est dans Avatar, là vous avez l'arbre aux âmes, quand vous claquez, vous rentrez dans l'arbre aux âmes. Mais normalement, on est de l'électricité, on se branche avec la queue dans Avatar. Vous voyez, on est en communion avec la nature, l'électricité, toutes ces conneries. Vous voyez. Par contre, des êtres personnels qui doivent choisir entre le bien et le mal, ça c'est embêtant par rapport à Madame Nature et par rapport au hasard. Eh bien, c'est assez impressionnant ce que Dieu a créé. Et je vous invite à regarder les documentaires animaliers en coupant le son, parce qu'à chaque fois ils vous disent « La mouche a voulu titi. Le marsupilami... c'est amusant, ils donnent de la volonté dans les espèces d'animaux. Et, alors, par sélection naturelle, tous ceux qui avaient les yeux qui n'étaient pas en face de trous sont tombés dans des trous, se sont pris des arbres, et n'ont survécu que ceux qui avaient des yeux en face des trous et les oreilles sur les côtés, orientées plutôt vers l'avant pour mieux entendre. Ou c'est Dieu, un être intelligent qui a fait les yeux. Vous savez que les yeux, ça décrypte les longueurs d'onde des photons. Et ça transmet en 3D, par le nerf optique, les ondes électriques des photons. Ce qu'est un œil. Par hasard, un œil. Eh bien, voyez-vous, un enfant un jour au catéchisme m'a dit, je leur disais, voilà, si les yeux ont été faits par Madame Nature et Monsieur Hasard, par des milliards d'années et par évolutionnisme à la con, à ce moment-là, ça a été fait aussi par hasard et par milliards d'années. Je l'ai cueilli sur un téléphonier. Mais je suis désolé, ça, c'est du Lego par rapport à une cellule de peau. Ou par rapport à un œil, c'est rien du tout, c'est du mécano. Vous voyez ce que je veux dire? Un œil, c'est un milliard de fois plus complexe qu'un téléphone portable. Et vous voudriez qu'il ait été fait par hasard? Mais ça, par contre, ah bah non, ça, il a été fait en Chine. En Chine. Et... Mais, si vous voulez, l'existence de Dieu n'est pas facultative. Je ne vais pas vous brûler si vous ne croyez pas en Dieu. Mais c'est une évidence qu'un être intelligent supérieur existe et que ce n'est pas par hasard et nécessité que nous sommes ici présents. Et que à Paris, vous avez peu de choses qui sont faites directement par Dieu, mais figurez-vous que notre intelligence elle-même n'est pas autosuffisante. Et que tout ce que nous réalisons, c'est parce que Dieu nous en donne la capacité de le faire. Que la main est un outil universel. Que entre l'ADN du singe et l'ADN humain, il y a un saut d'espèce qui ne peut venir que de Dieu. Parce que pour que l'ADN du singe soit l'ADN de l'homme, c'est impossible. Génétiquement, c'est impossible. Même par mutation génétique progressive. Impossible. Nous sommes des mammifères comme les singes, mais nous ne sommes pas des singes. Nous n'avons pas le même ADN du tout. Et puis nous avons une particularité, nous sommes le seul mammifère à l'avoir, c'est le pouce opposé, c'est la pince. La main est un outil universel qui est parfaitement adapté à l'intelligence humaine. Et quand vous avez un singe qui met une paille dans une fourmilière, c'est pas un outil extraordinaire. Même Yves Coppens, qui est quand même pas un grand croyant devant l'Éternel, il dit « l'outil, c'est 20 000 ans dans l'histoire humaine. » Or, qui dit outil, qui dit art, qui dit rite funéraire, dit homme. Et là, vous remontez pas sur des milliards d'années, ni sur des millions d'années. La nature humaine, c'est Dieu qui met un esprit dans un corps animal. Et là, attention, ça va être raide, mais moi je suis un intégriste, hein, comme les rabbins et comme les imams. Hein. Attention, Dieu a créé un seul homme et une seule femme dont nous sommes tous issus. C'est ce qu'on appelle le monogénisme, et c'est un dogme dans la religion catholique, qui n'est plus du tout enseignée. Les prêtres en ont très peur, les évêques encore plus, et le pape s'en fout. Sauf que jusqu'à Pie XII, on s'en foutait pas. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la vérité. Nous sommes tous issus d'un couple unique. Et là, on va atteindre le mariage. Dieu a créé un être humain. Il l'a pris du limon de la terre, il a pu créer un corps animal, et il a mis un esprit dans ce corps. Le premier être humain était Adam. Il était adulte quand il a été créé, c'est pas le bébé d'un singe et d'une guenon. Il avait, par son intelligence spirituelle, un langage et une connaissance de ce qui l'entourait pour ne pas mourir. Pour distinguer ce qui est bon, mauvais, pour pas se jeter dans le vide pour voir ce que ça fait. Ah! Ouais, non. Eh bien, voyez-vous, je vais plus loin. Adam a été créé entre le Tigre et l'Euphrate dans le jardin d'Éden. Waouh! Où est-ce qu'on a mis les pieds? Et c'est un personnage historique. Et quand il a vu tout ce qu'il y avait autour de lui, alors il était nu et sexué. Il avait une verge masculine et deux pendantes. Il est là et il voit la nature qui est autour de lui. Des animaux, des plantes, des insectes. Et Dieu lui parle et il parle à Dieu. Comme Abraham a parlé à Dieu et Dieu lui a parlé. Et il dit, je suis seul. Et Dieu, à ce moment-là, lui donne ce qu'il demande. Il endort Adam. Il prend d'Adam de la chair. Certains iront jusqu'à dire qu'il prend une côte, un os, en même temps que de la chair. Et à partir des cellules d'Adam, il crée un corps féminin en changeant l'ADN. Adam se réveille et il voit Ève toute nue. Et Adam et Ève sont dans l'intégrité de leur sexualité, sans imagination perverse. Ils sont deux naturistes 100%. Et là, Adam dit, ça c'est le récit extraordinaire hein, de Moïse dans la Genèse, c'est l'os de mes os, sont les os de mes os, la chair de ma chair. Et Dieu unit Adam et Ève en leur disant, multipliez-vous. Ce premier couple humain est un couple historique. Et c'était entre le Tigre et l'Euphrate, dans le croissant fertile. Alors, je vais développer ça par rapport à la Bible, mais comme je suis un peu scientiste, n'est-ce pas? Vous savez que l'homme ne donne que le noyau de sa cellule, et la femme, elle, a toute la cellule. Et là, le noyau de l'homme arrive jusqu'au noyau de la femme et fusionne. Donc ça veut dire que la membrane, le cytoplasme, les mitochondries sont de la femme. Et on a l'ADN mitochondrial pour remonter les femmes. Sauf que l'ADN mitochondrial est identique pour tout, enfin, dans l'agencement, il peut être différent, mais il est de la même espèce et il est absolument identique pour toutes les femmes et tous les êtres humains et tous les hommes. Et vous savez comment on appelle cela? La mitochondrie d'Ève. Ça veut dire qu'on a une mère unique, une origine unique. Qu'on soit bleu, vert, jaune, rouge, noir, blanc, nous avons tous le même ADN. Qu'on ait les cheveux qui poussent droit, qui poussent très droit comme les Asiatiques. Les cheveux des Asiatiques sont ronds à leur base. C'est pour ça qu'ils poussent droit. Ne me dites pas que je suis raciste parce que c'est comme des baguettes, hein. Nous, les Caucasiens, on a la racine des cheveux en amande. C'est pour ça qu'ils tournent, mais lentement. Et les Africains et ceux qui sont de type africain ont la racine du cheveu en haricot. Ce qui fait qu'ils tournent sur eux-mêmes, sans arrêt. Ils ne peuvent pas s'empêcher de tourner, ils ont un creux à l'intérieur, voyez-vous, et autour de ce creux, ils tournent. Et comment on va trouver dans l'ADN, si on a la myéline, ce n'est pas la myéline, c'est pour les nerfs, là, si on a la peau foncée ou pas, la mélanine, c'est pipeau. Vous n'y arriverez jamais. Et j'espère qu'on n'y arrivera jamais. Mais là, actuellement, si vous voulez, on n'arrive pas à le savoir. On sait que telle personne est africaine ou asiatique ou caucasienne, comme on dit, européenne, par la fréquence de tel type, mais on ne sait pas où c'est. Pourquoi? Parce qu'on a tous la même origine. On descend tous du même couple. On a tous le même ADN, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Et que le fait qu'on a la peau blanche ou qu'on a le majeur, ce n'est pas parce qu'on est dans tel ou tel endroit ensoleillé ou pas ensoleillé. Je vous assure que les Indiens, parfois, ils sont noirs comme le charbon, hein, et ils n'ont pas le nez épaté. Ils ont des visages d'Européens avec une peau complètement noire. Et ils ont les cheveux toujours noirs. C'est impressionnant de voir la diversité et la richesse de la nature humaine. Et dans le récit biblique, une seule origine. Alors, attention, hein, là vous vous accrochez quand même, hein, parce qu'on est dans le fondamentalisme chrétien. Hein. Donc, Adam et Ève sont deux personnages historiques. Oui, oui, c'est bon. Oui. Pour la 9e fois. Deux personnages historiques. Et c'est le mariage. Dieu a marié le premier homme et la première femme. C'est le mariage. Un homme et une femme. Et il n'y a pas de légende hermaphrodite comme quoi le premier homme était asexué ou transgenre, je sais pas quoi. Il était un homme. Il avait une verge entre les deux jambes. Et Ève avait un vagin entre les deux jambes. Et le mariage, c'est la particularité de la nature humaine d'avoir une vie animale de mammifère avec l'intelligence et l'amour des anges. Et c'est le sommet et l'achèvement de la création. Notre mise au monde comme des chenilles pour faire des papillons ou avec un mâle alpha dans une meute de loups ou chez les lions, c'est une sexualité qui n'est pas la nôtre. Vous allez me dire, les pingouins et les manchots sont fidèles, ils se reconnaissent d'une année sur l'autre. Quand l'autre a été bouffé par un orque ou par je sais plus les. Et donc ça, la sexualité des mammifères est très variée. Chez les oiseaux, c'est vraiment occasionnel. Quand vous voyez les pigeons à Paris, le bonhomme il est là, il en voit une, il gonfle son cou, il écarte ses ailes, et elle n'a pas envie, donc hop, il va chez une autre et tout, crac, et c'est fini. Je crois que le mâle ne couvre pas les œufs, il n'y a que la femelle chez les pigeons. Mais vous avez des couples de tourterelles. Voilà. Et vous avez en règle générale, voyez-vous, c'est le mâle qui a les couleurs et la femelle est plus terne. Le merle a un bec jaune qui doit rendre dingue la dame et une livrée noire. Vous voyez. La femelle du merle, elle est grise. Vous voyez, marron-gris. Voilà. Ensuite, vous avez le paon, voilà, c'est le summum. Mais sinon, vous avez aussi un oiseau qui fait une parade nuptiale, il hypnotise sa femelle. Donc il a les ailes qui font un arc de cercle parfait, et il fait une danse indonésienne, comme ça, fait cling, 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 et il tourne autour de la femelle, qui est là, qui ne sait plus où elle en est, cling, 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 et tout autour d'elle. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est eux qui l'ont inventé. C'est par évolutionnisme que ils sont réunis et je dis, ben moi je serai un oiseau qui ferait ça comme parade nuptiale. Eh ben il y a un humour de Dieu dans les parades nuptiales qui est absolument extraordinaire. Et alors que ces oiseaux, par exemple, je ne sais pas, les hirondelles, elles font des nids en torchis. Je vous attacherai les mains dans le dos avec un tas de boue et un tas de paille. Pour que vous fassiez un nid d'hirondelle, là vous n'allez pas le faire. Et elles, avec des ailes, quoi. Bon, ça leur permet de mettre en hauteur et contre les prédateurs, hein. Mais avec le bec, faire des boules de torchis, c'est quand même incroyable. Et vous avez des nids d'oiseaux qui sont avec des cheminées, avec des constructions extraordinaires. Rien à voir avec les pigeons parisiens qui vous mettent tout et n'importe quoi. Pour vous dire qu'il y a une intelligence supérieure et que l'être humain, lui, a une sexualité d'amour spirituel et dans le temps. Et nos petits ne sont pas indépendants. Même à 4 ans, même à 5 ans, ils crèvent s'ils sont sans leur papa et leur maman. C'est unique dans toute la création. Dans tout le monde animal, le petit de l'homme est un petit spirituel, c'est-à-dire qu'il a une âme à forger avec l'amour de son père et sa mère, avec l'expérience de son père et de sa mère. Sur des années, ce qui n'existe jamais chez les animaux. Posez-vous la question. Pourquoi? Parce que Dieu veut un amour spirituel dans le temps. Et comme je vous disais, les petits des animaux, les mères peuvent se sacrifier pour leurs petits, mais dès que les petits sont sevrés, elles s'en foutent. C'est fini. Elles ne s'en occupent plus du tout. Elles n'ont plus aucun instinct de protection pour un chat ou une chatte qui est parti. Ils vont pas aller se voir, parce que les uns habitent à Paris, en province, ils se visitent. Non, c'est fini. Et donc nous, on doit se poser la question pourquoi nos petits, qui comprennent le oui, le non, l'interdit, le pas interdit, dès l'âge d'un an, deux ans, qui a trois ans, d'après tous les gens sérieux, scientifiques sérieux, à trois ans, un humain supplante toutes les instincts animaux de par constat et mémoire. Vous voyez, un enfant de 3 ans ne va pas repérer l'endroit où il est né par rapport à des influx magnétiques dans son cerveau comme les oiseaux migrateurs. On s'est aperçu que les chiens et les chats avaient des influx magnétiques. Il y avait des mémoires magnétiques. Mais nous, c'est pas assez développé. Vous voyez, un enfant de 3 ans ne va pas repérer de la cocaïne ou de la marijuana dans des sacs dans un train. Il n'y a pas un odorat de chien. Mais par contre, au point de vue de l'estimative et de la réflexion, un enfant de 3 ans, il met à plat tous les mammifères. Parce que lui, il enregistre sans arrêt. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, le premier couple, c'est un homme, une femme, et c'est la monogamie. Alors, vous allez me dire, alors du coup, ils ont des enfants, et leurs enfants, alors, ils sont mariés avec qui ? Eh bien, ils se sont mariés entre frères et sœurs. Le début de l'humanité est un mariage monogamique. Et ensuite, parce que l'inceste, c'est entre parents et enfants. Nous ne sommes pas de la même génération et de la même catégorie. On a des relations différentes. Et l'inceste qu'on appelle positif vient avec le temps. Actuellement, nous sommes dans un inceste très limité. Cousin germain, c'est juste après les frères et sœurs. En droit français, on peut se marier entre cousins germains. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est juste après frères et sœurs. Eh bien, pourquoi Dieu et pourquoi l'homme a étendu l'interdit de l'inceste de parents-enfants à frères et sœurs? Eh bien, c'est parce que c'est la concurrence et la sensualité au sein de la famille, qui doit être un endroit de paix. Donc on doit limiter la sensualité, dans le foyer de la famille, qui est un lieu d'éducation et d'épanouissement, et non pas de jalousie d'attirance. Oui. Donc on dit aux frères et sœurs, vous ne tombez pas amoureux entre vous et vous ne couchez pas entre vous. Et c'est un interdit qui vient à la fois de Dieu pour la perfection de la nature humaine et pour la diffusion de l'amour, et de l'être humain qui sent que c'est un dérèglement si c'est une systématique, vous voyez. Alors, où est le péché originel là-dedans? Dans la tradition biblique, orale et non écrite, On pense que Dieu a révélé non seulement qu'il allait couronner la création matérielle, le cosmos, les étoiles, les planètes. Il y a combien d'étoiles? 200 milliards d'étoiles. Ou alors c'est 200 milliards de galaxies, ou 100 milliards de galaxies. Enfin, c'est absolument incroyable, cette quantité de matière. Vous savez que l'or ne se forme que lorsqu'une étoile explose, à des pressions considérables. C'est pour ça que l'or est rare. Vous voyez, c'est un métal qui ne se forme qu'avec des pressions absolument incroyables et des températures absolument incroyables. On ne peut pas synthétiser l'or. Il n'y a que 20 mètres cubes d'or sur Terre, connus. Eh bien, voyez-vous, tout cela, on dit que Dieu dit aux anges, moi, maintenant que j'ai créé et terminé ma création, la matière, premier jour, les planètes, deuxième jour, par rapport au magma en fusion, troisième jour, la vie sur Terre, quatrième jour, la Lune et le Soleil, dans une sorte de, si vous voulez, de panorama très rapide. C'est pas des jours de 24 heures, puisque dans le récit de la Genèse, c'est le quatrième jour, c'est les luminaires de la Terre. Vous voyez, la Lune et le Soleil. Les plantes et les oiseaux, les poissons, les mammifères. Et quand Dieu a achevé cette création, il dit aux anges, voici mon premier-né qui entre dans le monde, adorez-le. Et là, les anges auraient eu une vision de l'incarnation. Dieu va s'unir au chef-d'œuvre qui est entre la matière inerte et l'ange, qui est l'homme. Nous sommes à la croisée entre le monde des anges et le monde de la matière. Vous voyez, nous grandissons comme les plantes, nous avons la matière comme les minéraux, nous grandissons comme des plantes et nous avons l'instinct des animaux. Mais nous avons l'intelligence et la volonté et l'amour des anges. Nous sommes au sommet de la création. C'est un fait, on la transforme, on le voit ce qu'on fait. L'homme est quelque chose de... est un être particulier, il faut le reconnaître. Et là, il dit aux esprits, je vais m'unir à la nature humaine. Et là, vous avez Lucifer qui dit, et pourquoi pas à moi? Moi qui suis si parfait, si intelligent, pourquoi Dieu ne m'a pas choisi pour s'unir à moi? Parce que j'aurais eu des sensations extraordinaires d'être uni à Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ce tas de boue, ce ver de terre qui va... Il va être uni au Tout-Puissant, à la Divinité. Non serviam. Je ne servirai pas cette incarnation. Je ne servirai pas cet amour de Dieu. Dieu a voulu vivre dans un corps humain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lui qui sait tout, qui peut voir à travers nos yeux, qui sait le passé, le présent, le futur, il a voulu être uni à sa création matérielle. Vous avez plein de religions païennes qui font des arbres, des fleuves, des forêts amazoniennes, des dieux. Même Greta Thunberg, elle est là, oh, sainte planète. Vous voyez, elle est son prophète. Mais voyez-vous que les religions superstitieuses fassent des crocodiles, des singes, du soleil ou des volcans, des dieux, c'est une chose. Mais que Dieu s'unisse à une nature humaine, justement, même les Grecs et les Latins, on avait eu l'intuition avec les demiurges, mais c'était faux. Tous ces petits dieux qui sont tous des dieux. Alors, comment il peut y avoir plus d'un dieu? Vous voyez, deux dieux, je te tue. Non, je te tue. Non, tu peux pas me tuer, je suis dieu, et moi je te tue, et je machin. Mais s'il peut pas tuer l'autre dieu, il est pas tout puissant. Il y a une contradiction dans les termes, la pluralité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Tout-Puissant. Il n'y a qu'un seul Incréé, il n'y a qu'un seul Éternel. Eh bien, toute cette pour Lucifer, c'est impossible que Dieu aime à ce point-là les êtres humains et sa création. Et là, vous avez Saint Michel, qui est un archange, et qui dit, comment critiques-tu Dieu, si Dieu a décidé de s'incarner, pour qui te prends-tu? Quis ut Deus en latin, Michael en hébreu, qui est comme Dieu? Parce qu'il dit, Lucifer dit, ben, puisque Dieu s'humilie comme ça à s'incarner, mais moi je suis supérieur à Dieu. Je suis au-dessus de Dieu. Puisque de toute façon il m'a donné une puissance extraordinaire. J'ai la même puissance que Dieu. Et pour qui te prends-tu? À qui te compares-tu? Dit Michel à Lucifer. Et là vous avez un autre ange qui répond. C'est Gabriel. Et qui dit l'homme-Dieu. Qui est l'égal de Dieu? Eh bien, Dieu fait homme. Son verbe éternel, sa pensée éternelle, qui s'est uni aux hommes. Et humblement, moi en tant qu'ange supérieur par nature, je m'incline devant cette volonté divine. Et ça a mérité à Gabriel de présider à l'incarnation d'ailleurs, hein, dans historiquement, l'archange Gabriel. Et là, voyez-vous, le péché originel, c'est Lucifer, et là, les foudrages. Il a perdu la grâce. Et les autres anges, en ayant choisi de suivre Dieu, Dieu leur donne accès à sa lumière de gloire, à quelque chose de son être. Et là, les anges deviennent... Leur intelligence est remplie de la vie de Dieu. Ils ne peuvent pas le saisir en entier, parce que il faut avoir la toute-puissance divine pour se connaître... pour connaître Dieu dans sa totalité. Mais ils sont dans la vision divine. Ce qu'on appelle le ciel. Le ciel, c'est pas les nuages, hein. C'est pas de la lumière. Le ciel, c'est vivre en Dieu. Et donc, les bons anges ont gardé leur nom d'ange. Et ils ont vécu en Dieu. Depuis. Mais on pense qu'un ange sur trois est devenu un démon et a suivi Lucifer. Ça fait beaucoup. Et ce sont des êtres extrêmement intelligents et qui ont la haine de l'homme comme vous pouvez même pas l'imaginer. Qui veulent notre malheur, qui veulent nous rendre malheureux, nous désorienter sans arrêt. Alors vous avez les superstitieux qui disent « Ah, c'est le démon, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. C'est pas moi, c'est ma main qui a volé, hein, c'est le diable. » Et puis il y a ceux qui se foutent complètement du monde des esprits. Et donc, il faut un peu leur faire peur de temps en temps en leur parlant d'histoires d'exorcisme. Et vous avez à un moment donné une histoire drôle d'anges et de démons. Attention, vous avez un évêque qui est invité à assister à un exorcisme. Il y avait deux prêtres et l'évêque. On ne savait pas encore si la personne était psychiatrique ou possédée. Donc, on lui pose des questions, on la bénit, on prie pour elle et tout. Et puis à un moment, c'est l'évêque qui prie pour elle. Et là, la personne s'est retournée vers l'évêque et lui a dit « Toi, tais-toi, croissant au beurre !» Mais, alors bon, on a continué les prières, tout. La personne se reposait et les deux prêtres et l'évêque sont partis dans la pièce à côté, ils ont discuté. Et à un moment donné, quand même, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu? C'est l'imagination, c'est drôle ce qu'il a dit. Et là, l'évêque, il n'a pas rigolé du tout, il leur a dit, ben voyez-vous, elle est possédée, cette personne. Parce que personne ne peut savoir que à un de mes derniers voyages, quand je suis rentré à l'évêché, j'ai mangé 9 croissants au beurre au petit déjeuner. Alors c'est drôle sur le coup, mais l'évêque il rigolait pas du tout, il lui dit, cette personne a une connaissance de choses cachées, c'est pas elle qui a parlé. C'est drôle, hein, c'est une histoire vraie, hein. Elle a 2 ans. Mais c'est drôle, hein, ça fait, vous pourrez le dire dans les dîners en ville, les gens font, Ah ouais. Mais c'est pas très croustillant. Ouais. Oui, c'est des connaissances impossibles. Vous aviez une femme qui était possédée, qui est une religieuse, et qui annonçait des événements. Et on s'est aperçu que les événements qu'elle annonçait étaient en effet éloignés, mais qu'on pouvait considérer que quand elle les annonçait, ils s'étaient produits. Par exemple, des batailles gagnées. Elle a dit, et elle donnait des détails. En fait, elle avait fait un pacte avec le démon pour avoir des lévitations et pour passer pour une sainte. Et en fait, les démons lui disaient et lui donnaient des détails de batailles gagnées pour qu'elle puisse le dire et passer pour une personne qui avait des connaissances impossibles. Voyez. Et troisième petite histoire, vous avez la personne qui est là, qui a 24 ans, c'est une femme, et qui a fait du spiritisme. Donc si vous avez fait du spiritisme, confessez-vous à un prêtre et dites, je regrette d'avoir essayé d'être en contact avec les esprits. Donc elle avait du spiritisme, mais poussée, donc elle avait été possédée. Les démons, à un moment donné, s'amusent avec et rentrent dans son corps. Et donc elle était bien dans la choukoumoune, et donc on priait sur elle et tout. Et il y avait un prêtre de passage qui était un néerlandais. Et à un moment donné, le prêtre a parlé en néerlandais. C'est une parisienne, hein, qui connaît que le français. Il lui dit, au nom de Dieu, sors de cet esprit, esprit impur. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Et là, la personne, en néerlandais parfait, accent, syntaxe parfait, elle dit, je ne sortirai pas de ce corps. En néerlandais. Et là, ils sont dans la pièce à côté, vous savez, hein, elle dit, mince, elle est possédée. C'est pas. Voilà. Oui. Et donc, dans les hôpitaux psychiatriques, vous avez des gens qui sont possédés et des gens qui ne le sont pas, qui sont fous. Mais voyez-vous, c'est dommage parce que parmi des gens dans des hôpitaux psychiatriques sont des cas de possession. Alors, tout ça, c'est pour vous faire un peu peur. Donc, et c'est pour vous dire que les anges existent. Et pour terminer sur le péché originel. Parce que là, il est sévère. Ou alors, on avait dit, et c'est de quelle heure à quelle heure? C'est jusqu'à 17h? Donc on va faire une pause et je vous achève. Mais là, je termine avec le péché originel. Vous avez Adam et Ève. Ils vivent, mais il ne faut pas vous imaginer un truc débile, hein. C'est très concret et très simple. Vous avez un homme tout nu, une femme tout nu qui sont là et qui vivent entre le tigre et l'euphrate dans une plaine. Qui mangent, qui... Et vous avez Lucifer qui apparaît sous la forme d'un serpent, mais ça c'est libre. Il parle à Ève et lui dit, est-ce que tu peux manger de tout ce qui se trouve ici? Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'elle n'est pas étonnée qu'un serpent parle? Dieu lui parle. Elle entend des voix comme Sainte Jeanne d'Arc. Qu'un être comme ça lui parle, elle vient d'être créée, hein, donc c'est du surnaturel. Ou alors c'est une voix sans apparition. Ça, c'est libre de. Mais par contre, ce qui n'est pas libre, dans la foi catholique, la foi biblique, la foi juive, la foi musulmane, c'est que Lucifer est entré en contact avec Ève. Il lui a dit, mais vous pouvez pas manger de tout. Mais si on peut manger de tout. Ah, si on ne peut pas manger du fruit de l'arbre, de la science, du bien et du mal. Dieu nous l'a interdit et nous a dit que si on en mangeait, on mourrait. Comme un fruit empoisonné. En fait, c'est une sorte d'acte magique. D'actes kabbalistiques, chamaniques, si vous voulez. Et là, Lucifer lui dit, non, vous ne mourrez pas. Dieu a tort. Dieu vous ment. Alors il dit, non, vous ne mourrez pas. Donc il dit à Ève, ce que Dieu vous a dit, c'est faux. Mais si vous en mangez, au contraire, vous serez immortels et vous serez comme des dieux. Et Ève a historiquement fait un acte de volonté, je suis maintenant libre de Dieu pour choisir entre le bien et le mal. Qu'elle ait pris un fruit, parce que pomus en latin ça veut dire fruit. Hein, c'est le fruit par excellence, c'est la pomme. C'est un fruit qui est très universel, figurez-vous. Qu'elle ait mangé comme un acte magique, ou qu'elle ait posé cet acte sans qu'il y ait eu un serpent et une pomme, mais par contre une communication spirituelle entre Lucifer et elle, et qu'elle ait dans son âme dit « Maintenant je suis libre de Dieu, et je choisis moi-même le bien et le mal, je rejette Dieu, Dieu est mon ennemi, Dieu est un menteur, et Dieu est jaloux de moi. » Ça, c'est le péché originel. Rien à voir avec sa nudité ou quoi que ce soit. Hein. Vous avez certains rabbins qui disent que c'est un péché. Ils n'auraient pas été mariés. Ils sont mariés, c'est le premier couple. Et là, elle sent son âme se vider de l'amour. Et son intelligence tourne, tourne, tourne. Alors elle va voir Adam et elle lui dit de faire le même choix qu'elle. Et Adam, alors là on va dire oui mais c'est par séduction que Ève a fait tomber Adam. C'était une femme, mais Adam avait le recul nécessaire pour résister à la même tentation. Il avait l'intelligence, la volonté et l'état de grâce. Hein. On sera comme des dieux. Alors elle ne lui livre pas son trouble. Hein. Et Adam, on sera comme des dieux, Dieu nous ment. Alors, je choisis de nous couper de Dieu. Et là, tous les deux rentrent dans cet état de malaise et se regardent nus. Et tout d'un coup, toutes les tentations, tout se mélange. Et ils ont honte d'être nus. Alors, ils se prennent des feuilles pour se cacher. Et là, Dieu leur parle, dit « Mais où êtes-vous ? Pourquoi vous cachez-vous ? » Et là, Adam et Ève disent « Mais nous sommes nus. C'est pas convenable de se montrer nus devant toi. » Et là, Dieu leur dit « Mais qui vous a dit que vous étiez nus ? Qu'avez-vous fait ?» Et là, Adam dit « C'est Ève qui m'a troublé. » Et Ève dit « C'est le serpent, c'est Lucifer qui m'a troublé. » Et alors, Dieu, c'est très, vous savez, c'est pas drôle le péché originel. Parce que ce sont pas des Cro-Magnons, c'est pas des Néandertals. Les Néandertals, ils faisaient de l'art, ils faisaient des outils, c'était des hommes comme vous et moi. Hein. C'était pas grand. C'était des gens qui avaient pas encore des smartphones, quoi. Donc ils faisaient des haches, des flèches, tout ça, mais ils avaient leur langage, ils étaient pas du tout débiles. Hein. Pas plus qu'un Égyptien, hein. Du temps des pharaons. On vous prend vraiment pour des cons. Hein. Ou, excusez-moi, des paysans du Berry, qui vivaient, je sais pas, il y a 200 ans, en terre battue, avec les vaches et un chien. Si vous voulez, l'homme de Néandertal, enfin, dès qu'il y a homme, il y a homme, hein, avec l'intelligence, avec tout ce que vous voulez. Quand ils font des pochoirs, ou quand ils font des peintures sur les grottes, c'est des hommes, hein, c'est pas des débiles. Hein. Eh bien, Adam et Ève, mettez-vous bien dans la tête, ce sont un homme et une femme comme vous et moi. Pas avec un gros crâne ou machin, non. Ils ont toute la richesse ADN, d'ailleurs, de toute l'humanité. Hein. Et là, Dieu dit à Adam, eh bien, puisque tu as fait ça, tu vas mourir, vous allez tous les deux mourir, parce que vous voulez vous couper du bien. Alors, je dois vous tuer. Je dois tuer Hitler. Je dois tuer Staline. Il ne faut pas qu'il soit immortel. Il faut qu'il tombe malade, il faut qu'il soit mortel, il faut qu'il puisse être tué par un autre. L'homme est devenu un danger à vouloir le mal. Il peut tuer, il peut faire souffrir les innocents. L'homme doit mourir. Et même les innocents, parce que s'il n'y avait que les innocents qui étaient en bonne santé et les malicieux qui étaient malades... ou mortel, c'est pas le monde, c'est pas la nature humaine. Nous sommes tous enveloppés dans le péché originel. Dieu dit à Adam, eh bien maintenant tu vas souffrir, tu vas travailler à la sueur de ton front. et tu ne pourras plus vivre agréablement sur terre. Et toi, Ève, tu enfanteras dans la douleur, et ton mari t'écrasera. Donc, dans la conception originelle de Dieu, dans le mariage, l'homme et la femme sont associés. À cause du péché et de la malice humaine, l'homme abuse de son autorité masculine, de sa part dans la vie humaine, de sa force physique, de son courage particulier, tandis que la femme, elle, a une patience extraordinaire, a plus d'affection et plus d'amour. Oh là là, j'ai reçu. Eh ben, j'assume. Jamais un homme n'aura la patience d'une femme pour s'occuper d'un enfant, sauf exception, il y a des hommes très patients, tout ça, ou de s'occuper d'un malade comme une infirmière. Il y a plus de femmes infirmières que d'hommes infirmiers. Vous avez des infirmiers qui sont excellents, mais il y a chez la femme, l'épouse, la mère. Même celles qui ne se marient pas, elles ne peuvent pas s'empêcher d'être femmes. Et l'homme ne peut pas s'empêcher d'être un homme. Alors il peut y avoir des nuances d'affection, de douceur, de finesse, mais l'homme est l'homme. Dans une bagarre, c'est horrible de voir la... Vous voyez, je sais pas, vous êtes là à la sortie d'une brasserie, vous avez quelqu'un qui vous provoque, et là vous avez la femme qui dit « T'inquiète pas, je m'en occupe. Tiens, pam, pam, allez, on y va. » Non. Vous voyez ? Et c'est normal et c'est bon. Je sais pas. Heureusement que ce sont que les hommes qui font la guerre. Et quand vous avez des femmes qui font la guerre, en général, elles deviennent dingues. Vous voyez ? Elles sont plus cruelles que les hommes quand elles font la guerre. C'est tellement contraire à l'amour qu'elles ont au cœur. Hein. Bon. Je poursuis ma fantaisie. Et là, Lucifer, il dit « Et toi, tu ramperas par terre jusqu'à la fin et sa descendance t'écrasera la tête. Une femme enfantera pour t'écraser la tête. Toi, Lucifer, porteur de lumière, étoile du matin, Satan, l'adversaire, le diable, le diviseur, le démon, l'esprit, hein, daimon, c'est l'esprit, et en grec. Eh bien, la femme t'écrasera la tête. Il y aura une descendance dans la nature humaine et le péché que tu leur as fait faire et qui les a désorientés dans leur amour, eh bien, ils le surmonteront et naîtra une descendance qui te vaincra. Et là, Lucifer se le tient pour dit. Et il attendra des centaines d'années pour voir ce Messie, ce Sauveur, avec une hargne extraordinaire, à épier quand Dieu le ferait. Et Dieu l'a fait. Donc, nous allons avoir une dernière demi-heure où je vous parlerai du déluge, de la tour de Babel et d'Abraham. Voilà. Ensuite, la prochaine fois, nous verrons l'époux par excellence, celui qui est dans le mariage complet, c'est l'arrivée du Messie et de Jésus-Christ. Une petite pause.